Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Pascal Baudin.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est le troisième épisode de notre série consacrée à un objet économique non identifié, l'entreprise. Cette semaine, nous avons entamé une réflexion sur la gouvernance de la firme et sur son rôle dans l'économie et la société. Les entreprises françaises peuvent désormais se doter d'une raison d'être et se donner pour mission la recherche du bien commun. Un progrès réel qui ne doit pas nous faire oublier leur réticence quand il s'agit de financer ce même bien commun, ni les difficultés des États à percevoir un impôt sur les bénéfices des firmes, des États qui se sont eux-mêmes lancés dans une course à l'impôt le plus bas. Alors comment taxer les entreprises dans une économie mondialisée? C'est la question que l'on va se poser dans l'heure qui vient. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du juste impôt sur les sociétés en compagnie d'Éric Heyer, économiste, directeur du département Analyse et Prévision à l'OFCE et auteur d'Une autre voie est possible, paru chez Flammarion. En compagnie également de Sandrine Blanc, philosophe, enseignante à l'Université catholique de Louvain en Flandre et professeure associée à l'INSEC Business School. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Éric Heyer et Sandrine Blanc.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, d'abord un premier constat. Depuis 30 ans, l'impôt sur les sociétés ne cesse de baisser dans le monde. Et selon l'OCDE, cette baisse s'est même accélérée ces dernières années. On assiste, Éric Heyer, à une compétition mondiale sur le terrain fiscal.
Ben oui, c'est une des sources effectivement de la compétitivité. C'est-à-dire que si vous voulez attirer sur votre territoire des entreprises, ben vous pouvez toujours leur dire venez chez nous, vous serez moins taxés que chez vos voisins. Donc ça marche pour les entreprises, ça marche aussi pour effectivement des citoyens lambda. Donc globalement, effectivement, ça c'est une arme que peuvent utiliser un certain nombre de pays pour essayer d'attirer. Et on a cela un peu partout dans le monde, et y compris au sein de la zone euro. Vous avez des pays comme l'Irlande ou comme le Luxembourg qui utilisent cette arme pour justement attirer les entreprises chez elles.
Alors on va voir qu'il y a beaucoup de différences selon les pays, mais une même tendance à la baisse. Un chiffre peut-être, l'impôt sur les sociétés médians des pays de l'OCDE est passé de 35% à 22% sur la période 1995-2018. C'est à partir des années 80, Éric Heyer, qu'on observe le début de cette tendance à la baisse.
Oui, c'est à partir des années 80 qu'on observe cette tendance, à partir du moment où on vit dans un monde de plus en plus mondialisé, globalisé, donc effectivement où la compétition est de plus en plus dure. Attention avec le taux que vous avez tout de même affiché, c'est le taux apparent et c'est pas le taux effectif payé par les entreprises, parce que à ce taux apparent, vous voyez, il faut comprendre quelle est l'assiette auquel on associe ce taux, et beaucoup de pays, notamment la France, on le verra sans doute au cours de cette émission, n'a pas tellement touché le taux, mais a touché l'assiette, c'est-à-dire a réduit l'assiette. Et donc quand vous regardez cela sur un taux qui est plutôt effectif, on est même beaucoup plus bas. Et la tendance à la baisse est beaucoup plus forte.
Alors il faudra voir effectivement cette différence entre le taux et l'assiette. Mais d'abord, revenons quelques décennies en arrière, au milieu des années 80, lorsque en France, l'impôt sur les sociétés commence à baisser.
L'investissement se fera l'an prochain par une diminution de 50 à 45% de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis. Ce nouveau système se veut plus simple, plus équitable et plus durable que l'actuel régime dit de l'amortissement exceptionnel. Il s'appliquera dès l'an prochain à toutes les entreprises qui réinvestiront leurs bénéfices, ce qui, selon le gouvernement, présente le double avantage d'inciter les entreprises à faire des bénéfices et à renforcer leur autofinancement plutôt que de recourir à l'endettement. Il en coûtera environ 4 à 5 milliards au budget de l'État, mais c'est, pense-t-on, le prix à payer pour relancer l'investissement des entreprises françaises qui, globalement, continuent de stagner alors qu'ils progressent de 5 à 10% chez nos principaux concurrents.
Un extrait du journal d'Antenne 2 du 26 juillet 1985. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Éric Heyer, dans quel contexte politique, économique, cette première baisse d'impôt sur les sociétés est décidée en France par un gouvernement de gauche ?
Non, on était sorti, enfin, d'une crise au moment où Mitterrand arrive. Il y a un énorme plan de relance. Donc ça, c'est le programme des socialistes à l'époque. Et puis une crise, notamment une crise française, qui est une crise de change. Et donc pour essayer d'augmenter la compétitivité de l'économie française, on va à la fois essayer de passer d'une politique de demande à une politique de l'offre. C'est un peu, si on veut utiliser les termes d'aujourd'hui. Et donc, on est allé vers moins de relance de la demande et une politique de l'offre un peu plus forte. Et donc, ça passait par une baisse des prélèvements obligatoires et notamment sur les entreprises.
Et le taux qui s'applique alors à la tranche la plus élevée passe de 50% à 42%. C'est-à-dire que depuis la création de l'impôt sur les sociétés en France par le décret du 9 décembre 48, on avait eu ce taux de 50% pour la tranche la plus élevée.
Oui, donc il y avait effectivement un taux extrêmement élevé à cette époque. Encore une fois, c'est pas uniquement le seul levier qu'on a eu pour essayer de lever la pression sur les entreprises, mais c'est le taux le plus lisible en tout cas à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de voir les baisses de taux que les baisses d'assiette, et donc effectivement c'est sans doute cette arme qu'on a utilisée le plus pour en termes de marketing dire attirer les entreprises étrangères.
Un mot, Sandrine Blanc, sur cette tendance à la baisse sur cet impôt sur les sociétés et notamment sur la décision française à partir des années 80 et puis progressivement de diminuer ce taux.
Effectivement, on constate que cette baisse progressive du taux de l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices des sociétés, donc est engagée à cette époque. C'est une tendance longue puisque, enfin, on est actuellement dans la continuation de cette tendance avec une baisse qui est maintenant programmée pour 2022 à 25%. Donc c'est une tendance longue, une tendance globale. Je pense que ce qu'on peut d'ores et déjà voir en termes de, ou la question que ça soulève en termes de justice de l'impôt, c'est quelles implications notamment sur les recettes fiscales et éventuellement sur un éventuel redéploiement des recettes fiscales. Donc la question que cette tendance soulève, c'est quel est l'impact sur l'ensemble des recettes, un éventuel redéploiement et le caractère éventuellement plus ou moins régressif ou progressif au global de la fiscalité en France.
Et c'est vrai qu'on a peut-être en tête une idée fausse, une idée selon laquelle la France serait l'un des pays où la fiscalité des entreprises est la plus élevée au monde. C'est souvent ce qu'on se dit, alors qu'en réalité, ce que vous expliquez, Eric Ayer, c'est qu'à cause des nombreuses niches fiscales, et notamment le crédit impôt recherche et le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, c'est plus compliqué que cela.
Ah oui, alors, attention là. Dans les prélèvements obligatoires, il y a un certain nombre d'impôts, de cotisations, et là, on ne parle là aujourd'hui que de l'impôt sur les sociétés. Hein, donc, et c'est tout petit l'impôt sur les sociétés. Vous voyez que si vous voulez avoir un ordre d'idée, vous voyez, on sait qu'en France, on est quasiment les champions du monde des prélèvements obligatoires. Ça représente à peu près 48 points de PIB, on va dire la moitié du PIB en termes de prélèvements obligatoires. L'impôt sur les sociétés, c'est 2 points. Et puis, vous voyez, donc c'est tout petit dans les prélèvements obligatoires globaux payés par les ménages et par les entreprises. Et pour les entreprises, c'est tout petit puisque c'est 15 points. Et là, c'est que 2 points sur les 15 points. Donc, on est sur quelque chose de tout petit. Mais on a effectivement cette idée que les entreprises sont énormément imposées en France sur leurs bénéfices. Donc, cet impôt, parce qu'on a un taux qui dépasse les 30% en affichage. Sauf que, et alors que dans les autres pays, on est plutôt à 20. Donc on est effectivement plus, on serait, les entreprises seraient plus imposées sur leurs bénéfices en France qu'ailleurs. Sauf que là aussi, c'est pas complètement juste parce qu'il faut parler de l'assiette. C'est-à-dire qu'en France, on a, c'est un peu historique, mais on préfère jouer sur les niches fiscales et donc sur l'incitation. Parce qu'un impôt, ça peut être utilisé pour vous inciter finalement à changer de comportement. En disant, ben voilà, si vous vous comportez pas comme on le souhaiterait, ben vous allez payer 30% sous bénéfice. En revanche, si vous agissez un peu comme il nous semble être bon pour l'économie, pour la société, pour le bien-être, peu importe, alors on vous déduit un certain nombre d'impôts. Et donc, on utilise beaucoup ces niches fiscales. Et donc, le taux, effectivement, en fait, est extrêmement faible en France. Et donc, c'est ça qui nous permet de dire que globalement, on a un taux affiché plus élevé qu'ailleurs, mais on a un impôt sur les sociétés plus faible qu'ailleurs. Enfin, on n'est pas les plus faibles, mais en tout cas, en moyenne, on est plus faible que la moyenne. parce qu'on met les niches fiscales. La question, c'est de dire, est-ce que c'est bien, cette stratégie française? C'est-à-dire d'utiliser, finalement, les niches fiscales pour essayer d'orienter le comportement des entreprises, un comportement qui nous semble être vertueux.
Alors, c'est la question qu'on peut se poser, Sandrine Blanc. En effet, est-ce que cet impôt incitatif produit véritablement les effets désirés?
Mais je pense qu'il faut se poser, quand on se pose la question des effets désirés, il faut précisément avoir en tête ce qu'on souhaite obtenir au global pour la société. Donc quand on parle du bon outil fiscal, du bon instrument, la question derrière, c'est au fond quels sont les objectifs qu'on se fixe. Et souvent quand on parle de fiscalité, on a un peu tendance à laisser de côté les objectifs collectifs poursuivis, donc c'est mentionné de façon très très implicite pour se concentrer sur est-ce que la hausse convient ou pas. Donc, j'ai quand même envie de dire, dans un premier temps, à chaque fois qu'on parle de fiscalité, de bon instrument fiscal, quel est derrière, collectivement, l'objectif social qui est poursuivi. Si vous êtes quelqu'un, alors, bon, je fais un tout petit crochet par la philosophie politique, si vous êtes quelqu'un qui pensait de façon générale que la fiscalité est toujours une forme de spoliation, l'impôt, aucun impôt n'est bon quasiment, d'accord? Un juste impôt n'est pas correct. Si vous pensez que notre objectif collectif, c'est de créer de la richesse, de la valeur, du bien-être, dans ce cas-là, vous allez peut-être être sensible à la fonction allocative de l'impôt, beaucoup moins à la fonction de répartition.
Mais effectivement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va justifier l'impôt sur les entreprises de façon économique ou de façon politique par rapport à tous les avantages, les bénéfices que les entreprises retirent des infrastructures de l'État, par exemple, de l'éducation?
Il me semble qu'en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire que l'objectif que vous appelez l'objectif politique, c'est un objectif, alors supposons que ce soit un objectif, mettons, de justice sociale, avec aussi une idée d'une fiscalité qui a un sens redistributif. Pour pouvoir faire ça, vous avez besoin d'avoir un instrument productif, des entreprises qui créent la valeur. Donc l'espace du bon impôt sur les sociétés ou sur les entreprises, j'allais dire, c'est celui qui répond à nos différents objectifs politiques, mais tout en ne pénalisant pas la capacité à créer de la valeur collective et ne pas pénaliser les entreprises. Donc on est dans cet espace.
Vous l'avez dit, Sandrine Blanc, le gouvernement veut arriver à un impôt sur les sociétés à 25% en 2022, mais en réalité, le gouvernement a annoncé que la baisse de l'impôt serait moins rapide que prévu en raison des mesures prises en réponse à la crise des Gilets jaunes. Et en parallèle, le gouvernement a également commencé à s'attaquer à certaines niches fiscales des entreprises, suscitant l'inquiétude du patronage. Je vous propose d'écouter le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux.
Une niche fiscale, c'est quoi? C'est une réduction d'impôts qu'on a mis puisqu'il y avait trop d'impôts. Donc une suppression de niche fiscale, on peut l'appeler suppression de niche fiscale, en réalité c'est une augmentation d'impôts. Donc moi je me réjouis que le président de la République ait baissé les impôts des Français, en particulier des plus modestes, parce qu'il y a une asphyxie fiscale dans ce pays. Mais évidemment je m'inquiète qu'on augmente, en supprimant les niches fiscales, ceux des entreprises qui ont un problème de compétitivité, qui sont celles qui paient le plus d'impôts dans toute l'OCDE, dans toute l'Europe. Qu'on commence par les particuliers, d'accord, puisqu'on sort d'une révolte fiscale en réalité. Mais attention, ces niches fiscales, elles ont une raison, et cette raison, c'est le très haut niveau d'impôts qu'on paye. Le problème, au fond, le juge de paix de tout ça, c'est est-ce qu'à la fin du quinquennat, les entreprises françaises paieront moins d'impôts qu'au début du quinquennat. C'est ça la question qu'on pose.
C'est ça la question que Geoffroy Roux de Bézieux pose ici, Éric Heyer, et que vous inspire à ces propos?
Non, il est, à mon avis, enfin, encore une fois, on mélange plein de choses. À mon avis, il est faux de dire qu'on a mis des niches fiscales parce qu'il y avait trop d'impôts. Non, on a mis des niches fiscales pour essayer de changer les comportements. C'est-à-dire que les niches fiscales, elles ne sont pas pour tout le monde, elles sont pour les entreprises qui se comportent différemment. Oui. Et donc, c'est pas parce que c'est trop, c'est qu'on essaie de dire, tiens, voilà, on va changer. On essaie de changer le comportement des entreprises en jouant sur la fiscalité. Mais vous pouvez le faire aussi avec des impôts faibles. Alors, vous pouvez le baisser encore plus. Donc, c'est pas uniquement que le haut niveau. Et alors, ensuite, si on ne parle ici, en tout cas, que de l'impôt sur les sociétés, il est faux de dire que les entreprises payent plus d'impôts sur leurs bénéfices en France qu'ailleurs. Ça, c'est pas vrai, parce que effectivement il y a ces fameuses niches fiscales qui font que finalement l'assiette est trouée, et donc du coup on en paierait moins. Alors après c'est un peu plus philosophique, mais on peut aussi très bien aller dans son sens et dire en fait les entreprises n'ont pas payé d'impôts, puisque finalement l'entreprise c'est rien. Enfin vous voyez, on peut très bien se dire c'est quoi une entreprise? Ben ce sont des salariés et des actionnaires. Donc au final ce sont des personnes physiques. Et donc, on peut très bien se dire, bah, c'est aux personnes physiques à payer l'impôt, pas à une entreprise qui finalement ne représente rien. Et donc, on peut effectivement, au bout du bout, pourquoi pas, et c'est valable pour les cotisations, des cotisations sur les salaires, pourquoi on distingue employeur salarié, on peut très bien dire au bout du compte, en fait, finalement, c'est à des personnes physiques, c'est des personnes physiques qui devraient payer l'impôt, et donc si les entreprises appartiennent aux salariés, eh ben c'est les salariés qui vont payer cet impôt-là, parce que effectivement, la logique aujourd'hui du patronat, c'est de dire si vous augmentez les impôts sur les entreprises, nous, on va soit augmenter les prix, parce que on aura des coûts supplémentaires et donc c'est bien le salarié, le consommateur qui va payer au bout du compte. Soit on va pas augmenter les prix, soit on va perdre en compétitivité. Donc du coup on va devoir licencier et c'est bien au bout du compte la personne licenciée qui va y perdre. Donc c'est bien des personnes physiques qui y perdent. Donc pourquoi pas aller prendre au mot et dire ok, globalement actons le fait que l'entreprise n'existe pas, mais que l'entreprise derrière, ça appartient à des salariés et à des actionnaires, donc bien à des personnes physiques, et mettons l'impôt sur ces personnes-là, pourquoi pas. Mais les bénéfices aussi sont partagés pour ces personnes-là.
Mais alors justement, prenons par exemple l'exemple du CICE, du crédit d'impôt compétitivité emploi. L'objectif de ce crédit d'impôt, c'était précisément de créer plus d'emplois. Alors le bilan qu'on peut en faire aujourd'hui est quand même assez décevant.
C'est difficile en économie de dire avec précision l'incidence d'une mesure par rapport à une autre. Ça fait partie de notre métier. Il faut toujours prendre beaucoup de recul et avoir du temps pour bien l'évaluer. Il est certain que, et donc, et avoir un bon contrefactuel. Vous voyez, qui est capable de dire aujourd'hui, sans le CICE, combien d'emplois on aurait créé ou détruit? Vous voyez, donc, c'est peut-être qu'on aurait détruit de l'emploi. Et donc là, les créations d'emplois que l'on voit aujourd'hui doivent se dire par rapport à une situation où on aurait détruit de l'emploi. Bon, voilà, donc, c'est pour un peu redonner. Il est indéniable que lorsque vous vous redonnez 20 milliards aux entreprises, les entreprises en font quelque chose. Encore une fois, ça appartient à quelqu'un. Donc soit elles ont distribué des salaires, soit elles ont distribué des dividendes à leurs actionnaires, soit elles ont investi, soit elles ont embauché. Elles ont forcément fait quelque chose.
Mais il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent que les embauches ont été très limitées.
Oui, alors ces études, on y participe donc avec France Stratégie. Donc on est bien conscient de tout de même la difficulté de l'évaluer. Vous voyez, aujourd'hui, les études qui indiquaient qu'il n'y avait pas d'effet significatif sont des études réalisées par deux centres de recherche, mais qui se basent sur des chiffres définitifs, donc des chiffres de 2015-2016. Donc, vous voyez, ça veut peut-être que le CICE a mis du temps avant d'avoir une incidence.
CICE sur l'emploi. Mis en place en 2013.
Alors, a été mis en place en 2013, et donc, vous voyez, avec des effets, dès que vous rentrez dans une politique de l'offre, voyez, les effets sont très lents avant de se matérialiser sur l'économie. Donc, c'est peut-être que ça. Donc, avant de trancher, ça n'a pas du tout été efficace. Et si ça n'a pas été efficace sur l'emploi, c'est pas aller à l'emploi, c'est aller ailleurs. Et là, c'est le ailleurs qu'on a du mal à dire. Est-ce que c'est aller vers dans les salaires? Donc, certaines études nous disent que ça fait augmenter les salaires. Bon, c'est bien aller dans la poche de quelqu'un. Est-ce que c'est aller dans l'investissement? Oui, les études nous semblent dire qu'il y a un peu. Donc, on peut pas dire que, vous voyez, quand vous mettez 20 milliards, ces 20 milliards, vous les retrouvez quelque part. Et donc, c'est à savoir qui les a récupérés.
Mais on a l'impression que cette vision rejoint la théorie du ruissellement, Sandrine Blanc, avec cette idée que si l'on diminue les charges des entreprises, ça va se répercuter sur l'ensemble de l'économie.
Alors, ça, c'est ce que la théorie propose, donc l'idée que baissant les charges des entreprises, ça se répercute sur l'ensemble de l'économie, éventuellement aussi sur les moins favorisés. Alors, je crois quand même que la théorie en question est contestée. Est-ce que des baisses massives, d'impôts sur les sociétés et ou sur le revenu permet, en encourageant les premiers de cordée, investisseurs, etc., de développer l'économie de telle façon que sans redistribution et sans fiscalité, on améliore aussi la situation des moins favorisés de la société. Donc ça, j'en suis pas certaine. Donc je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution cette idée que un allègement de la fiscalité et aucune politique de redistribution va améliorer le sort des moins favorisés.
Il y a beaucoup de questions beaucoup de débats sur cette question qui est centrale. On peut aussi citer l'exemple des États-Unis. Donald Trump a baissé de 14 points le taux de l'impôt prélevé au niveau fédéral, donc de 35 à 21%, donc sur les entreprises bien sûr. Alors, quel bilan économique est-ce qu'on peut faire de cette baisse d'impôts? On se demande vraiment si ça a eu un effet sur la croissance et sur l'augmentation des embauches et de l'investissement.
Alors, on peut faire que des évaluations et qui sont aujourd'hui à prendre avec beaucoup de précautions, encore une fois. Vous voyez, aux États-Unis, ils étaient en haut de cycle, c'est-à-dire qu'ils étaient avec une croissance qui était déjà forte et qui commençait à décélérer, mais ils étaient au plein emploi. Vous voyez, c'est normal que quand vous êtes au plein emploi, au bout d'un moment, votre croissance décélère un peu parce que vous avez certaines tensions sur votre appareil productif. Ce qui semblerait tout de même, c'est que cette forte relance, parce qu'on peut appeler ça une relance, alors par des baisses d'impôts, ait maintenu une croissance supérieure à ce qu'elle aurait été sinon. Donc, mais ça, c'est pas un scoop. Hein. Il est évident que lorsque vous baissez les impôts, il y a un petit effet booster dans un premier temps.
Dans un premier temps, non.
Mais bien sûr,
croissance de court terme.
Ça peut être que de court terme. Ce qu'il faut mettre en parallèle, c'est normalement l'augmentation des déficits. Lorsque vous le faites, toute chose égale par ailleurs, vous baissez les impôts. Si vous touchez pas, mettons, vos dépenses, ça vous fait un déficit. Et donc, vous voyez que c'est. Et est-ce qu'on peut maintenir un déficit aussi longtemps aux États-Unis? Dit autrement, aujourd'hui, l'interrogation sur les États-Unis, c'est certes, cette politique-là a eu dans un premier temps un élément de stimulation de l'économie, et donc ça leur a permis de maintenir des taux de croissance supérieurs à ce que l'économie aurait été sinon, mais avec des déficits à la fois budgétaires et des
déficits... Près de 6% cette année, ouais, alors même que la croissance exactement. Est bonne.
Et des déficits commerciaux. Et donc la question, c'est est-ce qu'ils peuvent tenir ce rythme-là, et est-ce qu'il n'y a pas une politique, du coup, d'austérité qui va arriver? C'était ce qui était prévu, normalement, hein, une politique d'austérité. Et donc, c'est là où on attend les mesures et on en fera le bilan à la fin. Parce que, vous voyez, si les mesures d'austérité qui pourraient venir, bon, même s'il y a une année électorale, donc peut-être que ça va être reporté, viennent renier finalement les effets favorables du début, on pourra dire tout ça pour ça. Et puis, là, la vraie question, c'est pas est-ce que ça stimule la croissance économique, mais est-ce que ça n'a pas augmenté les inégalités? Si vous faites des baisses d'impôts pour les plus riches et qu'ensuite vous faites de l'austérité sur les plus modestes, là, peut-être qu'en termes de croissance économique, vous ne verrez pas grand-chose, mais en termes d'inégalités, ça va faire une explosion des inégalités. Donc là, ce n'est plus le macroéconomiste avec ses données de PIB, de chômage qui va pouvoir vous aider, mais c'est plutôt les raisonnements en décile de revenus. Donc ce n'est plus la comptabilité nationale, il faut rentrer dans des enquêtes qui va vous expliquer attention, les inégalités vont grandissantes. Et si on croit après les théoriciens, plus les inégalités s'accroissent, plus la croissance à long terme va être faible, donc il y aura des conséquences économiques négatives.
Et on voit bien ici, Sandrine Blanc, que cette question de l'imposition des sociétés, c'est une question très idéologique, et on le voit notamment aux États-Unis.
Absolument. Je pense que vraiment ce qui est important et ce qui vient d'être dit, mais c'est que la question, c'est pas simplement la question de l'impôt et la capacité, la façon dont ça impacte la productivité et la compétitivité des entreprises, c'est vrai, mais c'est aussi l'impact d'un type de fiscalité sur les inégalités. Et donc, un des problèmes potentiels, enfin je reviens à ça, mais un des problèmes ou une des difficultés potentielles de cette baisse progressive sur le temps long d'un type de fiscalité, donc de l'impôt sur les sociétés, qui quand même, alors même s'il faut évaluer en termes économiques, qui est réellement affecté, mais ça vise quand même plutôt le revenu du capital, d'accord ? Donc a priori, il y a plutôt une dimension progressive à cette fiscalité. Si le redéploiement s'opère sur des facteurs qui sont des facteurs fixes, si on n'arrive pas où on a on a une difficulté à imposer le facteur mobile qui est le capital, raison pour laquelle, ce qui a été expliqué tout à l'heure, on a cette compétition et cette baisse de l'impôt sur les sociétés, cette compétition entre États. Si on n'arrive pas à le faire, le redéploiement se fait sur des impôts qui sont plutôt des facteurs fixes, TVA, consommation, éventuellement travail. Et donc, au global, l'effet est plutôt un effet régressif avec une augmentation des inégalités. Donc je pense qu'il faut pas simplement regarder l'impact sur la question pas simplement sur les entreprises et la création de richesses par les entreprises, mais aussi l'impact ensuite en termes d'impact sur les inégalités. C'est le vrai enjeu un des vrais enjeux de cette question.
Et puis peut-être qu'on peut entrer un petit peu dans le détail et voir l'impact de ces baisses d'impôts sur les sociétés, sur les différentes entreprises, selon que ce sont de petites entreprises ou des multinationales, Eric Ayer.
Alors ça, en France, là, on s'est posé la question, est-ce qu'il était bien d'utiliser la fiscalité pour essayer de changer le comportement et donc d'utiliser les niches fiscales, outre le fait qu'il faut savoir, comme ça a été dit, à quoi sert une niche fiscale et quel est l'objet, on voit que c'est complètement inégalitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je regarde, et c'est pareil pour les citoyens, hein, quand on regarde l'ensemble des niches fiscales, il y en a aux alentours de 486, enfin il y a à peu près 500 niches fiscales, et ça représente 90 milliards. Mais qui peut s'y retrouver dans ces niches fiscales? En fait, en gros, quasiment personne, sauf si vous payez quelqu'un qui vous aide à vous y retrouver dans ces niches fiscales. Mmh. Et donc là, ça introduit un petit biais sur qui a les moyens de se payer un avocat fiscaliste pour essayer de défiscaliser une partie de son impôt. Et donc, pour les ménages, on sait très bien que les plus riches, finalement, alors qu'on essaie de mettre un impôt sur le revenu qui est progressif, du coup, on voit bien que le taux effectif baisse à cause des niches fiscales, et c'est bien les ménages les plus aisés qui profitent le maximum de ces niches fiscales.
Mais on retrouve la même situation sur les entreprises.
Ben oui. C'est les grandes entreprises de grande taille qui ont la possibilité de se payer, un salarié qui ne gère que cela, qui peut utiliser finalement toute cette optimisation fiscale. C'est pas illégal, hein, on a le droit de le faire, mais ça profite plutôt aux grandes entreprises. Et vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les niches fiscales, hein, mais il veut dire, attention, ça introduit une inégalité dans les entreprises. Et puis, il y a forcément, comme dans tout niche, il y a des effets pervers. Le crédit d'impôt recherche, qui est une énorme niche fiscale, on constate que finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui payent un chercheur et qui met tout ça dans un crédit d'impôt. Bon, donc il y a des effets pervers.
Et la conséquence de cela, et d'ailleurs Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'a reconnu lui-même, c'est qu'on a 14 points de différence entre les grandes entreprises et les PME. Les grandes entreprises paieraient autour de 9% sur leurs bénéfices et les PME autour de 23%, Sandrine Blanc.
Absolument. Et donc c'est un des problèmes aussi en termes de justice. C'est-à-dire quand on pense au bon impôt, c'est aussi un impôt qui traite, les acteurs économiques de la même façon. Donc là, ce n'est pas par référence à une conception de l'objet, la finalité en termes de justice sociale suivie au niveau d'un État, mais en termes de l'équité de l'outil lui-même. Et donc on peut estimer qu'il n'est pas normal que certaines entreprises aient une fiscalité effective qui soit nettement inférieure, sans justification en tout cas, qui soit nettement inférieure à celle d'autres acteurs économiques. Je vais peut-être rajouter juste un point sur la question de des niches fiscales. Effectivement, elles orientent l'investissement, donc elles sont légitimes. Et après tout, les entreprises sont légitimes à répondre à ces incitations. Donc je pense que là, on parle peut-être à juste titre de la part des entreprises d'optimisation fiscale. C'est autre chose, à mon sens, les montages, on va dire, qui servent plutôt à contourner l'impôt, c'est-à-dire l'esprit de la loi. D'accord. Là, on peut parler éventuellement, et qu'effectivement, il y a toute une ingénierie pour contourner l'impôt, mais au sens non pas de répondre à des incitations, mais essayer plutôt de payer moins d'impôts en contournant, en respectant la lettre, mais pas l'esprit. Ça, je pense qu'on pourrait, à ce titre-là, parler de contournement fiscal. Et c'est pas exactement la même situation et la même finalité du point de vue de l'entreprise et des acteurs économiques.
Absolument, et d'ailleurs on va parler dans une seconde partie de ce contournement fiscal dont vous parlez, mais peut-être un mot sur les impôts sur la production. On a parlé des impôts sur les bénéfices, donc on appelle impôts sur les sociétés, mais les impôts sur la production sont beaucoup moins connus, Éric Heyer, et en même temps, ils seraient particulièrement élevés en France. Alors il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faudrait les baisser ou même carrément les supprimer.
Oui. C'est vrai que c'est une singularité française, là, pour le coup. Il y a les Suédois de mémoire qui ont un niveau d'impôt de production supérieur à la France, mais c'est dans les 36 pays de l'OCDE, il y a deux exceptions, c'est la France et la Suède. Hein, donc, et effectivement, autant l'impôt sur les bénéfices, il y a une petite logique, on peut dire, vous avez gagné de l'argent, vous en avez gagné, donc on vous en prend une partie.
Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que l'impôt sur la production, c'est sur le chiffre d'affaires. Exactement. Et non plus sur les bénéfices.
Alors que là, l'impôt sur la production, c'est beaucoup moins intuitif de comprendre quelle est la logique économique derrière, puisque ça veut dire que on regarde ce que vous avez produit, mais on regarde pas vos coûts. Donc du coup, peut-être que vous n'avez pas gagné d'argent, et que vous êtes quand même imposé. Alors que vous gagnez pas d'argent. Et donc, d'un coup, on change de logique. Il n'y a pas vraiment de logique économique. C'est pour ça que là, il y a une singularité française. Ça représente quand même 70 milliards. Vous voyez, à peu près 3 points de PIB.
Et quel impôt sur la production on pourrait citer, par exemple?
Alors, c'est des termes un peu techniques. C'est la C3S, la CVAE. Enfin, les chefs d'entreprise les connaissent très bien. C'est vrai que le commun des mortels, moins, parce qu'en fait, on n'a pas affaire à ça. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous montez une entreprise et que vous allez commencer à produire, vous allez commencer à payer de l'impôt. Alors qu'on est généralement dans une logique où c'est à partir du moment où vous faites des bénéfices que vous allez payer des impôts, et si vous n'en faites pas, vous pouvez même décaler, vous avez même des aides, etc. Là, c'est donc tout de suite, on vous paye. Alors effectivement, on peut considérer que ce ne sont pas des impôts efficaces et que ce type d'impôts devrait être finalement supprimé. Et et ou enfin remplacés par des impôts sur les bénéfices ou autres impôts. Mais les impôts à la production, c'est très difficile pour un économiste de le maintenir.
Et le débat avance sur ce sujet et peut-être justement pour faire comme nos voisins allemands qu'on prend souvent en exemple, qui ont des impôts très faibles sur la production.
Je renvoie les auditeurs à une note. Vous voyez, on a le Conseil d'analyse économique, c'est un conseil sur les économistes qui conseillent le Premier ministre et qui viennent de sortir une note, c'est Tranois et son co-auteur, qui indique qu'il faut à tout prix les supprimer. Et donc, en disant, dans tous ces impôts à la production, lesquels sont les pires. Mais donc, il y a bien cette logique, quand il y a des économistes qui conseillent, le Premier ministre qui conseille de supprimer un impôt à la production, je pense qu'on est dans la bonne voie.
Sandrine Blanc.
Oui, sur ce point, simplement, je dirais que sur la conclusion de cette note, les auteurs se posent précisément la question. Si on les supprime, quel est le remplacement? Et donc, à nouveau, il faut réfléchir aux effets régressifs, aux effets en termes d'inégalité. Donc, ils considèrent la TVA, ils l'écartent parce que, à nouveau, l'effet régressif de la TVA, ils envisagent éventuellement l'impôt sur les bénéfices. Donc, à nouveau, suppression, on parle de suppression nette, mais toujours garder à l'esprit quelle est la modalité de redéploiement choisie et son impact.
Alors, nous avons parlé des conséquences du mouvement mondial de baisse des impôts sur les sociétés. À présent, comment les États peuvent-ils contraindre les entreprises à payer leurs impôts? On en parle dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
This is my job, I will not quit it. Pulled me out the depths when I thought that I was finished. Yeah, I question if I could go the distance. That's just the work, regardless of who's listening. Listening, listen. See, I was meant to be a warrior. Fight something amongst me. Leave here victorious. Classroom with kids. Or a venue performing. If I'd done it for the money, I'd have been a fucking lawyer. Concrete, vagabond, band telling stories. Humbled by the road, I'm realizing I'm not important. See, life's a beautiful struggle, I record it. Hope it helps you maneuvering through yours. That's why we stay in the lab at night. I've been staring into this pad for over half my life. A true artist won't be satisfied. So I guess that's the sacrifice. And I said, make the money, don't let the money make you. Change the game and let the game change you. I'll forever remain faithful. All my people stay true. I said, make the money, don't let the money make you. Change the game and let the game change you. I'll forever remain faithful. All my people stay true. Forget about the bank, fortune in the mansion. Sitting and tripping, watching myself on a plasma. Yeah, I start slipping when I'm thinking about that stuff. Ego once swollen until karma catches that up, that up. I'm my grandma's number one grandson. I lost myself to remember who that was. We start thinking about some kicks, a necklace. What I really need is a job off Craigslist. Take away the .com.
Make the money de Macklemore et Ryan Lewis sur France Culture. Entendez-vous l'écho suite de notre discussion sur le juste impôt sur les sociétés. L'économiste Éric Heyer et la philosophe Sandrine Blanc sont toujours avec nous.
Si vous regardez les multinationales du monde entier, 40% de leurs profits qu'elles enregistrent de façon artificielle dans les paradis fiscaux, l'Irlande, le Luxembourg, Singapour, les îles Caïmans, etc. Donc ça représente 600 milliards de dollars de bases taxables qui, c'est les profits qui ont été faits en France, en Allemagne, aux États-Unis, dans les pays en développement, mais qui sont enregistrés sur le papier et qui sont taxés à des taux très faibles en Irlande et dans les paradis fiscaux. Et donc il y a un certain nombre d'établissements financiers qui ont été condamnés pour avoir aidé leurs clients à faire de l'évasion fiscale. Et plus généralement, je crois qu'une des leçons de la crise financière, c'est que dans certains pans de la finance, il n'y a pas un respect de la loi qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que certaines personnes se disent, bon, à partir du moment où on fait de l'argent, je fais le bien. Et donc, il y a tout un tas d'établissements qui ont été condamnés, non seulement pour de l'évasion fiscale, mais pour blanchiment d'argent, fraude au Libor, crédit hypothécaire frauduleux. Donc, c'est simplement ce fait-là que j'essaie de rappeler, qui me semble important parce que ça permet de comprendre à la fois les progrès qui ont été faits en matière de lutte contre l'évasion fiscale et les limites. Si on veut faire des progrès, il faut changer les comportements au sein de l'industrie financière au sein des paradis fiscaux en ayant des sanctions contre les établissements financiers qui facilitent la fraude, et c'est pas facile.
L'économiste Gabriel Zucman, chez nos confrères de France Inter, un certain nombre d'entreprises et notamment de multinationales sont devenues véritablement expertes dans cet art de transférer leurs profits d'un pays à un autre, Eric Heyer.
Oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que... dans l'ancien monde, c'était assez simple. Il y avait des territoires. Et donc, en gros, globalement, on arrivait globalement, le chiffre d'affaires et les bénéfices étaient quand même associés à un territoire. Là, avec la digitalisation, c'est bien plus compliqué. C'est plus forcément dans un territoire. Vous n'êtes plus obligé d'être dans le territoire pour avoir accès à l'intégralité de ces bénéfices. Et donc, du coup, c'est... Aujourd'hui, ça pousse sa digitalisation à faire de l'optimisation fiscale bien plus fort qu'à l'époque. Et donc là, ça devient effectivement, avec les GAFA aux États-Unis, on les montre du doigt, mais tout le monde le fait. Et effectivement, les GAFA, c'est vraiment dans cette logique-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils mettent tous leurs centres en Irlande, où les taux sont les plus faibles. Et donc, du coup...
L'impôt sur les sociétés est à 12,5 en Irlande.
12,5. En plus, vous pouvez faire des arrangements avec l'administration et donc avoir des taux, pourquoi pas, encore plus faibles.
On a vu qu'Apple avait payé bien moins que 12,5 en l'occurrence.
Donc, du coup, lorsque un pays fait de sa stratégie de croissance cette incitation fiscale, on voit bien, et que ce pays est au sein d'une zone avec une monnaie unique, ça peut faire des catastrophes. Ou des... Vous voyez, encore une fois, pour que les auditeurs aient bien conscience du problème, le PIB... en Irlande, a augmenté de 26% en 2015. Enfin, on ne peut pas penser que c'est des données dures. Ce n'est pas parce qu'ils ont produit 26% de plus en une seule année. Non, c'est qu'il y a d'un coup, avec ces éléments de rapatriement de bénéfices un peu de façon artificielle, ça fait augmenter le PIB, mais pas de façon... Que serait la richesse pour tous les citoyens irlandais.
Et alors, pour prendre des mesures contre l'évasion fiscale, encore faut-il réussir à évaluer l'ampleur du phénomène. En l'occurrence, on a affaire à des chiffres extrêmement différents, Sandrine Blanc, de 2 à 80 milliards d'euros de manque à gagner pour la France. Donc on voit que c'est une fourchette particulièrement large. En l'occurrence, si c'est plus de 100 milliards d'euros de manque à gagner, c'est plus que le déficit de l'État français. Peut-être, Eric Heyer, sur cette question, il s'agit d'un chiffre, c'est 100 milliards qu'il faut peut-être prendre avec précaution, 110 milliards d'euros, c'est ce que dit l'organisation altermondialiste ATTAC.
Oui, et qui se base sur des statistiques d'un syndicat de fonctionnaires des impôts, donc qui sont bien placés, puisqu'ils sont aux impôts, mais qu'il faut effectivement tenter de d'auditer. Et d'ailleurs, c'est ce que veut faire la Cour des comptes. En gros, globalement, le président de la République a demandé à la Cour des comptes de faire un audit de ce chiffre-là. Et donc, le rapport va sortir d'ici la fin de l'année. Et donc, ça sera intéressant. Alors, intéressant. Imaginons qu'on reste sur ces chiffres de 100 milliards. Effectivement, on a l'impression qu'il suffit de se pencher pour les trouver, ces 100 milliards. Non, c'est quand même bien plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, encore une fois, faut bien faire la distinction entre ce qui est légal, pas légal, etc. Mais ça pose le problème de, est-ce qu'on arrive dans une zone monétaire à faire un peu d'harmonisation fiscale. Vous voyez, est-ce que rester dans, même si on arrive nous à baisser, mais puisque tout le monde le baisse en même temps, il va rester ce petit gap. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers quelque part un impôt qui soit à peu près commun à tous les pays de cette zone euro.
Mais cette question de l'harmonisation fiscale en Europe est bloquée par la règle de l'unanimité des pays européens pour ce qui est du changement des politiques fiscales. Sandrine Blanc, sur cette question des mesures qui ont pu être mises en place après le scandale des Panama Papers. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des mesures qui entravent au moins en partie ces stratégies des multinationales pour échapper à l'impôt?
Alors aujourd'hui on n'y est pas encore. Il y a des choses qui ont été faites. Alors, je veux revenir sur quand même un élément, c'est que on peut presque. Alors bon, les montants sont très importants. Quels sont-ils exactement? C'est à voir, mais on peut parler quasiment de braconnage fiscal. Enfin, c'est vraiment, on parle de... Alors, on pourrait estimer que les pays sont légitimes à fixer la fiscalité qu'ils souhaitent sur l'activité qui est réalisée chez eux. Ce qui est réellement problématique, c'est quand on va aller, on impose l'activité qui est réalisée, donc l'activité numérique qui est réalisée dans les États voisins. Alors, il y a différents types de réponses qui ont été progressivement mises en œuvre. D'abord, des mesures de transparence. Donc, par exemple, au niveau de l'OCDE. Là, c'est tout d'abord une exigence de déclaration auprès des autorités fiscales de ce qui est payé, donc des montants payés auprès des différentes administrations fiscales.
C'est ce qu'on appelle le reporting.
Reporting pays par pays. D'accord? Donc, reporting pays par pays, mais auprès des autorités fiscales. Ensuite, directive proposée par le Parlement européen, cette fois-ci d'un reporting par pays public. Alors, quel est l'intérêt de la publicité? Il n'est pas immédiat, mais en tout cas, il permet aux acteurs, aux consommateurs, enfin, il donne une visibilité sur l'activité des multinationales, et ça permet éventuellement aussi une forme, peut-être, de modification des comportements des acteurs par eux-mêmes. Donc, une forme de pression de la société via cette transparence. Ensuite, il a été discuté au niveau européen, mais malheureusement, enfin, les discussions n'ont pas suffisamment avancé, et ce qui était en train d'être évoqué par Eric Ayer, c'est-à-dire une forme d'harmonisation. Donc l'objectif, ce serait d'arriver à l'idée d'un impôt sur les sociétés, sur les bénéfices, mais pas basé sur ce qui est la base actuelle, qui est la notion d'établissement stable, mais établissement matériel qui n'a pas de sens pour les activités numériques, mais sur la base de l'activité numérique. Donc qui était en discussion, ça n'a pas avancé au niveau européen, d'où la proposition temporaire de la France d'une taxe sur le chiffre d'affaires. Pour l'instant, alors la France a décidé, enfin l'a mis en place, j'allais dire de façon
unilatérale.
Mais la réelle direction, c'est la direction d'une forme d'harmonisation. Au minimum, un accord sur les assiettes et éventuellement un accord sur les taux, par exemple, dans des entités économiques au niveau européen.
Sur cette taxe GAFA, justement, qui a été adoptée par le Parlement définitivement au début du mois de juillet, donc une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des géants du numérique, une taxe qu'Emmanuel Macron lui-même a estimée très imparfaite, c'est ce qu'il a déclaré lors du G7 à Biarritz.
Comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord à l'OCDE, l'Union européenne a essayé de trouver une taxation sur les activités numériques. Il y a eu cette tension, et c'est d'ailleurs pour ça qu'une dizaine de pays, dont la France, ont pris cette décision d'avoir une taxe qui, à un moment, heurtait certaines entreprises américaines. J'ai très clairement dit hier au président Trump, si on trouve une solution ensemble dans le cadre de l'OCDE, nous, on ne souhaite pas garder notre taxe. Elle est très imparfaite, notre taxe. C'est beaucoup plus intelligent d'avoir une taxation internationale. Mais aujourd'hui, notre système de fiscalité internationale, il n'est pas bon. Si on arrive à enclencher cette dynamique internationale, c'est la meilleure des solutions possibles. Elle est bonne par rapport à ce que veut le président Trump et à ce qu'il a dit, c'est-à-dire un pays ne peut pas taxer mes entreprises, je veux que ce soit fait à l'international ou que ce soit moi, et elle sera bonne pour nous parce qu'elle obtient le même objectif.
Alors d'abord, Eric Ayer, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment cette taxe GAFA a été conçue et qu'est-ce qu'elle était censée permettre ?
L'idée, c'est de se dire, puisque maintenant, aujourd'hui, les entreprises, c'est plus sur le territoire, mais elles peuvent jouer avec des prix de transfert, enfin, et avec le numérique, elles peuvent jouer et dire où est-ce qu'elles font leurs profits, et elles mettent leurs profits uniquement dans des pays où les taux sont les plus bas. Et ensuite, après, elle négocie avec les administrations. Donc, globalement, elle ne paye plus d'impôts. On dit, maintenant, il faut qu'elle participe, comme tout le monde, au financement des dépenses publiques. Et donc, il va falloir les taxer. Donc, comment fait-on dans ces cas de figure? Le mieux, enfin, une proposition, d'ailleurs, on a entendu Gabriel Zucman, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Une des propositions, c'est de se dire, ces entreprises-là font des bénéfices. Elles disent qu'elles font tous ces bénéfices en Irlande. Ça, on arrête avec cette idée-là. On dit, elles font des bénéfices, et on n'essaie pas de regarder où est-ce qu'elles en font. On regarde les bénéfices consolidés, et on se dit, on va ensuite répartir ce bénéfice en fonction du chiffre d'affaires qu'elles réalisent dans tous les pays, et les pays vont être, du coup, touchés une partie de ces bénéfices. Et donc là, du coup, on arrive à contourner cette idée d'optimisation de la part de ces GAFA en disant, mais puisque tu fais du chiffre d'affaires en France, il est normal que tu fasses des bénéfices supérieurs, ou en tout cas, t'en fais, c'est normal, et tout ne se réalise pas en Irlande, et donc on va te taxer là-dessus. Donc c'est ça, on va dire, la taxation qui serait la plus convenable, c'est-à-dire que c'est en fonction de tes bénéfices, mais après, on répartit les la taxation sur tous les pays dans lesquels tu fais des chiffres d'affaires. Est-ce que, alors le problème, c'est que ça aide beaucoup les grands pays, c'est-à-dire que comme nous, parce qu'on a des chiffres d'affaires élevés, puisqu'on est un grand pays par rapport, et donc on va toucher plus finalement de recettes par ces pays-là. Donc Zugman étant français, peut-être qu'il a réfléchi ça en tant que tel, mais en tout cas, c'est une bonne taxe. En tout cas, il y a une idée intéressante.
Mais le une problème, taxe c'est... qui a été très mal prise par les États-Unis.
Non, je parle de la taxe optimale. C'est pas du tout ça qui est fait pour l'instant. C'est qu'on s'est pas mis d'accord sur cette idée-là. Et donc, puisque ça allait trop lentement là-dedans, les Français, il y a le Royaume-Uni, il y a certains pays ont dit, bon, mais moi, de toute manière, je vais taxer. Alors, ok, je vais taxer sur le chiffre d'affaires, c'est la pire des choses à faire. Encore une fois, on a dit, l'impôt sur la production, c'est pas la meilleure taxe. On sait très bien, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires, mais pas de bénéfices. Mais, et en plus, c'est pas international. Donc, ça avait beaucoup de défauts. Mais ça avait au moins la qualité de dire, je vais pas laisser faire les GAFA, je vais les taxer, même si c'est pas la meilleure façon de les taxer, ça va faire bouger les choses. Est-ce que ça a fait bouger les choses? On peut dire pourquoi pas. Ce qu'on a vu au G7, c'est que Trump était pas d'accord, mais ils se sont mis d'accord.
Alors Trump a d'abord menacé de taxer les vins, l'exportation des vins français, mais ensuite Emmanuel Macron, effectivement, à l'issue du G7, a annoncé un accord de principe avec Donald Trump sur la taxation des géants du numérique. Mais ce qu'on peut constater, c'est que le chemin risque d'être encore assez long, Eric Kerr.
Oui, c'est long, mais on le savait. Alors ensuite, peut-être que c'était maladroit de le faire à la française, puisque ça a braqué Trump, qui, rappelons-le, voulait aussi, enfin les États-Unis, ils perdent aussi dans cette affaire. Hein. Ils perdent parce qu'il y a des recettes en moins, et on a dit en première partie qu'ils avaient 6 points de déficit, donc ils ont besoin aussi de recettes. Mais ils se sont dit, mais c'est pas aux Français
de taxer nos entreprises,
Etc. Donc il va falloir qu'on trouve... Alors donc, c'était peut-être maladroit dans le sens où on a braqué le Trump et donc du coup qui s'est du coup rallié avec les GAFA à ce moment-là, mais on voit bien qu'une fois cela passé, l'objectif commun est bien de taxer plus justement ces GAFA.
L'initiative française a au moins eu le mérite de relancer la discussion et les négociations, même si il va falloir mettre d'accord 130 pays, je crois, engagés dans les négociations qui sont orchestrées par l'OCDE sur cette taxe.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est le mérite des discussions, de ce qui a été discuté, avancé au G7, décidé aussi par la France de façon unilatérale, même si c'est très imparfait, ça a eu le mérite de mettre, j'allais dire, au devant de la scène cette question, mais il faut quand même, ça fait quand même un moment qu'on en parle, parce que en 2012 le New York Times sort une grande étude sur la fiscalité d'Apple, et le problème que ça pose là, c'était simplement aux États-Unis. Donc c'est quand même un sujet qui est en train de mûrir, donc arrive heureusement sur le devant de la scène, mais qui est en train de mûrir progressivement depuis quelques années.
Et l'une des questions qui va être en discussion, c'est le niveau de taxation de ces entreprises. Est-ce qu'il faudrait par exemple un seuil minimum mondial, parce que ça permettrait de limiter la concurrence fiscale entre États, Eric Ayer?
Oui, ça c'est le minimum. Le minimum, c'est qu'on trouve un minimum. Après, ensuite, l'idéal, ça serait qu'on ait un taux qui soit harmonisé, et en tout cas extrêmement proche. Alors, on peut toujours mettre le minimum pour être sûr qu'on ne descendra pas en dessous, mais je pense qu'il faut aller... le risque, c'est qu'on mette un minimum trop bas, mais que donc du coup, ça ne serve pas à grand-chose. Non, mais encore une fois, c'est intéressant. Mais tant qu'on sort pas de cette logique, est-ce qu'une entreprise c'est une entité, etc. Et ben, il va falloir que l'on réfléchisse à la taxation des entreprises au sens large. Et du coup, ben aujourd'hui, compte tenu des dépenses publiques importantes et des investissements publics importants, il va bien falloir que les entreprises y participent, et donc il faut faire attention à cet au minimum.
Et on voit bien, en tout cas sur cette discussion autour de l'évasion fiscale, Sandrine Blanc, que les frontières entre la légalité et l'illégalité sont assez minces, entre l'optimisation et la fraude. Il y a aussi tout un travail à faire et une réflexion à mener sur ce sujet.
Oui, tout à fait. Ce qu'on constate, c'est que... L'État et la loi a toujours des limites. Donc c'est vrai en matière fiscale. Donc les entreprises ont toujours la possibilité d'optimiser ou de contourner ce qui est décidé. Alors évidemment, si on a dans l'hypothèse où on arrive à avoir une fiscalité harmonisée avec un taux harmonisé, là le problème est en partie résolu. En revanche, avant d'arriver à ce niveau-là, se pose la question de la responsabilité fiscale des entreprises face à un environnement, qui offre des opportunités différentes. On a parlé tout à l'heure de transparence. Je pense que c'est peut-être un facteur qui, via la loi ou via les régulations, permet quand même d'orienter, de faire pression sur les comportements des acteurs. Mais on peut penser aussi que les acteurs peuvent être peut-être responsabilisés de façon interne via là plutôt des mesures qui porteraient sur leur gouvernance.
Alors c'est une grande question effectivement qu'on a abordée en grande partie dans notre émission lundi. On arrive presque au terme de cette émission et je voudrais vous demander si on peut véritablement augmenter le consentement à l'impôt des entreprises et est-ce que cette action, si elle est menée, dépend aussi de la taille de l'entreprise. On ne s'adressera pas de la même façon à une PME et à une multinationale, Sandrine Blanc.
Alors je pense que cette question du consentement à l'impôt est vraiment importante. Je pense qu'en fait, il ne faut pas créer des institutions, des entreprises dont le comportement, d'une certaine façon, soit pire que celui des acteurs qui la composent. Donc, évidemment, le consentement à l'impôt dépend ultimement du consentement à l'impôt des investisseurs, des consommateurs, des salariés, donc de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. En revanche, on peut réfléchir peut-être à des mécanismes de responsabilisation interne de l'entreprise. Donc quand on pense à la gouvernance, on peut penser à des comités éthiques, on peut penser à des représentants de la société civile dans les conseils d'administration. Donc une modification des conseils d'administration qui pourrait peut-être importer une forme de responsabilité sociale. Alors on en a parlé beaucoup pour la responsabilité environnementale, mais peut-être aussi pour la responsabilité fiscale. Donc changeant la structure de gouvernance, essayez aussi d'importer cette responsabilité au cœur de la prise de décision de l'entreprise. Alors, on peut estimer que c'est utopique, que si les autres ne le font pas,
il y a encore
les
entreprises du chemin à faire, en tout cas.
Mais néanmoins, c'est aussi une direction de transformation là du comportement de l'entreprise elle-même.
Éric Heyer, est-ce que c'est le rôle de l'État aussi de peut-être mieux communiquer sur les bénéfices qui sont retirés par les entreprises de l'action qui est menée par l'État? On parlait par exemple de l'éducation, mais il y a bien d'autres choses.
Non, mais bien sûr que aujourd'hui, enfin, si on est un peu basique, on se dit les dépenses publiques c'est du gaspillage et les impôts, il y en a beaucoup trop et ça, bon. Donc c'est bien plus compliqué que ça. Effectivement, dans les dépenses publiques, les entreprises bénéficient beaucoup d'externalités positives, hein, c'est-à-dire de bénéfices de ces dépenses publiques, des dépenses en infrastructure, en éducation, le fait qu'on soit bien soigné, donc il y a du coup une productivité qui soit assez élevée de la main-d'œuvre française. Ça, ce sont des avantages que, au final, les entreprises arrivent à bénéficier au travers de leurs salariés. Je pense que ce qu'il faut, donc bien sûr, faut communiquer là-dessus, mais je pense que les entreprises sont pas folles non plus et se rendent bien compte pourquoi on attire, pourquoi la France est toujours dans le troisième, quatrième pays d'accueil des investissements étrangers. Bah, c'est parce que malgré des taux élevés, il y a tout de même un avantage à venir investir en France parce que il y a la dépense publique qui permet d'avoir quand même un niveau de qualité assez important. Je pense que dans le débat sur les impôts, on n'a pas fait l'erreur dans cette émission, mais je pense que tout de même dans l'opinion publique, enfin en tout cas chez les entreprises, on mélange les impôts et les cotisations. Et vous voyez que très souvent, le MEDEF dit ce qu'il faut baisser, c'est plutôt le coût du travail, donc les cotisations. Et là, je pense qu'il y a un travail très, très important à faire en disant attention, il y a un écart entre un impôt et une cotisation, mais qu'en revanche, certaines cotisations, finalement, on peut se poser la question de est-ce que c'est bien aux entreprises à les payer ? Et donc, parce que ça n'ouvre pas de droit à des salariés, mais ça permet de payer la politique familiale ou la politique maladie, qui est une politique universelle et peut-être un impôt serait plus juste qu'une cotisation payée par les employeurs.
Et bien, ce sera l'occasion de poursuivre cette discussion une prochaine fois. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure du journal de l'Écho. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffany.
Les travailleurs étrangers, cibles de violences xénophobes en Afrique du Sud en début de semaine, et le chômage qui serait le principal responsable.
Ce sont des violences en tout cas qui ont touché des commerces à Johannesburg et des chauffeurs routiers étrangers le week-end dernier. Elles ont fait 5 morts et elles sont assez clairement dirigées contre des travailleurs étrangers, des Bangladais, des Nigérians ou des Zimbabwéens. Alors xénophobie sans doute, mais après les déclarations aussi du président d'une association de migrants, la presse pointe le chômage au plus haut depuis 2008. Son taux est passé à 29% de la population active au second trimestre avec 455 000 demandeurs d'emploi en plus. Alors curieusement, en Afrique du Sud, la croissance est là, mais ce chômage très fort, alors faut-il y voir un lien direct avec ces violences, trop de frustration? Il vaut mieux donner le contexte de ces attaques, expliqué tout à l'heure Nicolas Ponce-Vignon. Il est chercheur à l'université du Witwatersrand à Johannesburg.
La population noire sud-africaine a historiquement été rabaissée économiquement de manière volontaire. Et donc une des choses qui s'est produite avec l'arrivée de pas mal de migrants, c'est que beaucoup de ces migrants ont un succès économique très nettement supérieur à celui de la population locale, notamment dans ce qui concerne les activités de commerce, etc. Et pour certains emplois aussi. Et donc il y a en effet une forte animosité qui est d'une part liée aux difficultés de l'Afrique du Sud à créer des emplois. Il y a un chômage structurel qui est très très élevé en Afrique du Sud. Si on rajoute ce qu'on appelle les chercheurs d'emploi découragés, on arrive à presque 40% de taux de chômage, 38, 37, ça varie, et une population qui a besoin d'accéder à l'emploi pour survivre, parce qu'il y a une grande partie de la population qui a des grandes difficultés économiques. Donc, d'un côté, il y a cette tension vis-à-vis des étrangers, mais de l'autre côté, évidemment, le problème est beaucoup plus profond. Est-ce que c'est la récente augmentation du chômage qui est responsable de ces attaques-là? Je pense que c'est impossible de le dire, honnêtement. C'est très difficile d'établir des causalités aussi simples.
Un chômage qui reste préoccupant. Le président Ramaphosa avait annoncé cette année vouloir créer 2 millions d'emplois en 10 ans, Xavier.
Et oui, c'est beaucoup. Il l'avait dit lors de son premier discours devant le Parlement cette année. Ramaphosa, qui a qualifié d'ailleurs d'inacceptable ces violences. En attendant, il faudra d'abord gérer les dégâts d'image liés à cette crise, puisque déjà le Nigeria appelle au boycott de produits sud-africains et que le président rwandais aurait annulé sa participation au forum économique au Cap.
On passe au bref. À l'étranger, toujours l'Inde et la Russie veulent renforcer leurs liens économiques.
Oui, avec un partenariat, par exemple, pour un nouveau modèle d'avion civil, des projets de production en commun, combustible nucléaire, diamants ou des facilités pour le tourisme, même une zone de libre-échange, disent-ils, à la clé. Ce sont pêle-mêle les projets annoncés par le Premier ministre indien Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine au 5e forum économique de l'Est de Vladivostok. De quoi donner donc, je cite, une nouvelle impulsion aux échanges bilatéraux. L'année dernière, 11 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'était 15 milliards avec la France, 96 milliards avec la Chine, et pour l'instant, le principal marché indien pour la Russie reste l'armement avec 14,5 milliards de commandes.
Et elle, par contre, cesse de vendre des armes. C'est l'enseigne de grande distribution Walmart aux États-Unis.
Et oui, dernière annonce hier, petit à petit, avec la fin de la vente de munitions calibre 5,56 utilisées pour les fusils d'assaut grand public, très utilisées aussi dans beaucoup de tueries aux États-Unis. Ceci après plusieurs nouvelles fusillades, dont celle d'El Paso dans un Walmart. Alors, comme d'autres entreprises, sous la pression de l'opinion publique, l'enseigne de supermarché américaine avait déjà été forcée de se distancer des armes et de la NRA avec plusieurs mesures d'interdiction de vente de fusils en 2015 ou d'âge limite pour acheter des armes. Mais cette fois, Walmart ne veut plus être seul. Son PDG Doc McMillon veut désormais que le Congrès légifère pour imposer les mêmes limites à tous. Question de morale publique ou de concurrence, les parts de marché de Walmart sur le marché des munitions passeraient de 20 à 6 à 9%.
En France, le ministère de l'Action et des Comptes Publics va dégraisser.
Et oui, 5800 suppressions d'emplois annoncées à Bercy entre 2020 et 2022. La conséquence, je cite le communiqué, de la mise en œuvre de transformation d'ampleur visant à simplifier la vie des Français. Par exemple, le prélèvement à la source, a déclaré hier le ministre Gérald Darmanin au syndicat. La Direction générale des finances publiques récupérerait également une quinzaine de taxes perçues par les douanes. Réorganisation donc. 10 000 emplois devraient être supprimés sur l'ensemble du mandat d'Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.
Those walls I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more.
On se quitte avec Halo de Beyoncé, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Elle a 38 ans, un bon anniversaire à elle. Et un grand merci à vous, Eric Heyer et Sandrine Blanc, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, nous partirons en quête de l'entrepreneur qui sommeille en nous. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
adapted to